7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Et chaque année, cette journée égrène son lot de douleurs. Pas une bonne année pour la France avec une homophobie de plus en plus violente, mais aussi de bonnes nouvelles. Le Parlement de Taïwan autorise, c'est public aujourd'hui, le mariage pour tous. L'Inde a dépénalisé l'homosexualité en septembre dernier. Mais 72 États dans le monde ont encore une législation répressive à l'égard des personnes homosexuelles, comme le Soudan, le Nigeria, l'Arabie Saoudite. Et dans des pays où il n'y a pas de législation répressive, révéler son homosexualité, faire son coming out, reste pourtant une épreuve. Bonjour Denis Parot.
Bonjour.
Votre film Coming Out est sorti dans les salles en France, il va sortir aussi dans d'autres pays d'Europe. C'est le titre et le sujet de votre documentaire Coming Out, donc la révélation de son homosexualité. Des jeunes annoncent, souvent en larmes d'ailleurs, hein, à leurs parents, le plus souvent à leur maman, qu'ils sont homosexuels. Et ce qui est fascinant dans ce film, c'est qu'en fait, c'est un film sur l'amour filial, pour moi en tout cas, qui l'ai vu, et qui interroge notre humanité dans une réflexion profonde sur le droit à la différence, qui est tout sauf un choix de la part de ces jeunes. Et d'ailleurs, ils le disent. Également avec nous, Antoine Hidier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, vous publiez Archives des mouvements LGBT, une histoire de lutte de 1890, donc fin du 19e siècle, à nos jours, chez Textuel. Et forcément, on aura envie de vous demander si on est plus ou moins sur la bonne route pour sortir des ténèbres de l'intolérance, si les accès de violence aussi, y compris dans des pays comme la France à l'égard des homosexuels, notamment dans les quartiers sensibles, ne sont peut-être qu'un épiphénomène ou une réaction à la progression des droits pour tous. On aimerait le croire, mais les archives de l'histoire ont peut-être une version différente. En fin d'émission, la chronique de Marie-Rose Moreau, Parents, enfants d'ici et d'ailleurs, une chronique également disponible en podcast et qui aborde là pendant plusieurs épisodes le sommeil. Aujourd'hui, pourquoi parfois les enfants n'ont pas sommeil ?
7 milliards de voisins.
On existe ensemble.
Mais tout de suite, je vous propose d'écouter cet écrivain égyptien, Mohamed Abdelnaby. Il publie son deuxième roman, La chambre de l'araignée, aux éditions Actes Sud. Annie, le personnage principal, est homosexuel. Il vit au Caire. On suit ses premiers émois adolescents pour des garçons, son coming out jusqu'à son arrestation, bien que l'homosexualité ne soit pas illégal dans les textes en Égypte. Charlie Dupiot a rencontré l'écrivain à l'occasion de son passage à Paris. Il a choisi de centrer son roman autour d'une affaire de mai 2001, celle du Queen Boat, une boîte de nuit gay flottante sur le Nil au Caire.
En résumé, les services égyptiens ont arrêté 52 hommes de plusieurs endroits différents sous la seule accusation d'être homosexuels. Les uns ont été jugés condamnés de 1 an à 5 ans et les autres ont été libérés. Pendant ce temps-là, ils ont tous été très exposés aux médias et ils ont été cause de scandales. Et s'il est exposé dans les médias partout, auprès de sa famille, auprès de ses collègues de travail, qu'il est homosexuel, ça veut dire une chose, c'est qu'il est rejeté de la société.
Quand vous avez appris cette affaire, cette histoire, comment vous avez réagi? Qu'est-ce que vous avez ressenti?
J'étais alors étudiant à l'université et j'ai lu ça dans les journaux comme tout le monde. Et ça a été très dur pour moi, j'ai eu peur et je tremblais d'horreur. Ça n'a pas été la première ni la dernière. Et des affaires similaires ont lieu encore jusqu'à aujourd'hui. J'ai été très choquée. Il fallait attirer l'attention sur cette affaire parce qu'elle était tellement importante. Mais au départ, je voulais parler de l'histoire d'amour entre deux hommes.
Et pourquoi ce thème-là vous intéressait?
Il y a plusieurs raisons à cela, mais je n'ai jamais lu une histoire d'amour entre deux hommes dans la littérature arabe. contemporaine. Et comme dit Toni Morrison, l'écrivaine américaine, le livre que tu aimerais lire et que tu ne trouves pas dans les bibliothèques, écris-le. Dans le roman de Alal Aswani, Immeuble Yacoubian, il y a un personnage homosexuel dans le roman. Et je suis allée voir le film au cinéma, et quand on frappait, quand on battait ce personnage sur l'écran, les gens dans la salle applaudissaient. Ça faisait frissonner quand je voyais les gens applaudir dans la salle. La partie principale, ce sont des histoires que j'ai entendues et des personnages que j'ai rencontrés moi-même. Et en ce qui concerne l'affaire de Queen Boat, j'ai rencontré des avocats et des juristes égyptiens et non égyptiens qui m'ont parlé de l'affaire. Mais je ne voulais pas que le roman soit très lourd et très dur pour les lecteurs, parce que mon objectif était qu'ils acceptent les personnages et qu'ils les trouvent naturels et ordinaires.
Vous avez écrit dans le roman, c'est le personnage qui parle, « Pendant des semaines, je m'imaginais qu'il y avait quelqu'un sur mes talons ou qu'une main infernale allait fondre sur moi d'un instant à l'autre. Pendant les jours qui suivirent ma sortie, je ne pouvais plus me passer de me doucher à chaque instant. La plupart du temps, je m'abandonnais au sommeil. Plus d'une fois, le désespoir fut sur le point de me conduire à mettre fin à ma vie. » Alors, vous n'avez pas voulu écrire un roman triste, mais néanmoins, vous dépeignez le poids du fait de passer en prison sur les épaules de votre personnage, qui est donc homosexuel en Égypte.
Les geôliers, comment ils traitent avec ce genre de prisonniers, ne serait-ce que parce qu'ils sont homosexuels et parce qu'ils sont, disons, pas normaux par rapport aux autres, c'est un fait en plus pour les torturer et pour les humilier. C'est aussi, en plus de la torture physique, il y a une idée d'humiliation. Et on les traite avec des noms de femmes, on les traite comme si elles étaient des prostituées sorties d'une maison close. Et cette façon-là, c'est en plus de leur torture physique.
Est-ce que le livre est sorti en Égypte? Et si oui, quelle critique est-ce que ce livre a pu vous valoir?
La critique littéraire était parfaite, mais il y a eu beaucoup de lecteurs sur Goodreads qui ont critiqué le livre, le thème du livre. Quelques lecteurs ont posé des questions, ont demandé pourquoi vous parlez de ça. Vous êtes un bon avocat, mais pour une cause perdue.
Vous êtes un bon avocat pour une cause perdue. Antoine Hidier, que vous évoque cet échange avec cet écrivain Mohamed Abdelnaby? Vous étiez en Tunisie, non pas en Égypte, hein, mais il y a quelques jours.
Hein. Déjà, j'ai trouvé très beau dans l'entretien la manière dont il parlait de mener une lutte au sein de la littérature, parce que le 17 mai est une journée de lutte et qui s'inscrit dans une longue histoire des luttes. Et lui-même a choisi de mener la lutte dans l'espace littéraire avec cette idée de dire que dans la littérature contemporaine, en tout cas, il n'a jamais vu d'histoire homosexuelle. Effectivement, moi, j'étais
dans le monde arabe.
Dans le monde arabe, pardon, oui. Moi, j'étais en Tunisie il y a quelque temps. Alors, la situation n'est pas du tout la même que l'Égypte, mais j'étais sollicité par des militants qui, alors qu'il y a un processus en cours de révision du code pénal, tentent de faire abroger l'article 230 du code pénal tunisien qui réprime l'homosexualité de manière très forte et conduit à plusieurs dizaines de condamnations par an. Je suis toujours admiratif de la manière dont des militants, des juristes, des intellectuels se battent. D'autant qu'en plus, la situation de la Tunisie est intéressante historiquement parce que l'apparition de la répression de l'homosexualité est liée à l'écriture d'un nouveau code pénal alors qu'il y avait un protectorat français et en même temps bien avant que la répression de l'homosexualité apparaisse dans le code pénal français, ce qui pose aussi beaucoup de questions sur l'intrication des codifications juridiques et des régulations et de la sexualité entre la France et ses colonies.
Ouais, alors l'article 230 du code pénal donne en réalité
relativement peu de poursuites judiciaires néanmoins, ce qui est réellement dangereux pour les personnes homosexuelles, ce sont les violences, les agressions physiques et puis les violences policières aussi, comme on l'entendait d'ailleurs pour le cas de l'Égypte.
Oui, il y a plusieurs affaires qui ont été assez médiatisées ces dernières années. Aussi, la manière dont la police débarque dans des lieux privés, arrête tout le monde, fouille aussi dans les téléphones pour retracer des réseaux de sociabilité, et même pas forcément de relations amoureuses, mais juste de sociabilité. L'utilisation aussi de tests anaux pour déterminer si une personne est supposément homosexuelle ou pas. En même temps, ce qui est frappant, c'est que j'ai découvert une société civile très riche, avec à Tunis en tout cas, plusieurs associations qui créent des permanences juridiques, qui créent des relais d'assistantes, qui créent même des distributions de préservatifs, des conseils pour lutter contre le sida et les IST et les MST. Et en même temps, une des principales associations tunisiennes, Shams, est menacée d'interdiction. Il y a un processus juridique en cours. Elle est la seule association à avoir ouvertement la lutte contre l'homophobie dans son objet, là où les autres associations avancent plutôt la lutte pour les droits humains, ou l'égalité de tous les individus. Et de ce fait-là, Shams subit des poursuites.
C'est toujours une situation assez paradoxale, en effet. Alors, on va maintenant donner la parole à Florian, un jeune Camerounais dont on a changé le prénom pour sa sécurité. Il a trouvé refuge en France depuis 2 ans à cause des menaces qui pesaient sur lui au Cameroun, l'un des pays africains où le code pénal criminalise encore l'homosexualité. C'est un témoignage recueilli par Raphaël Constant.
Je suis né au Cameroun. Et du coup, j'ai grandi un peu isolé dans mon petit coin. Je n'avais pas des cousins autour de moi, non, juste que je me sentais différent des autres. Je crois que j'ai cherché un peu cette protection auprès des hommes un peu plus âgés. Après, j'ai grandi et j'ai quitté mon village pour aller m'installer en ville. Je me suis plongé dans la Bible pour un peu... chasser cet esprit à moi. Je crois que c'était un esprit, parce que quand les gens parlaient autour de moi que les gays c'est l'abomination, c'est le démon, c'est le diable, et du coup j'étais terrorisé à l'idée de savoir que je vais partir en enfer. Et du coup j'avais fait des efforts pour être comme un garçon normal.
Et quand est-ce que vous avez décidé de révéler votre homosexualité?
J'ai pas vraiment décidé, parce que ça n'a pas été facile d'en arriver là. J'avais rencontré un jeune, il avait 5 ans d'âge plus que moi. Il était gay mais distrait. Il avait une femme, il avait une fille, et ça s'est passé bien. Et je l'aimais. C'était le premier homme vraiment que j'avais éprouvé des sentiments.
Et vous deviez vous cacher pour aimer?
Oui. On devait se cacher dans la rue, on ne pouvait pas se tenir par la main, on ne pouvait rien faire dans la rue. On était des super potes dans la rue. Mais à la maison, on pouvait vivre notre vie. Je pouvais me déguiser comme je voulais et tout, parce qu'il aimait bien que je portais des trucs de filles. Mais dans la rue, impossible. Au Cameroun, il faut être viril pour être un homme.
Et d'ailleurs, le Cameroun est l'un des nombreux pays africains où l'homosexualité est encore criminalisée. Les homosexuels risquent entre 6 mois et 5 ans de prison.
Oui, je connais plusieurs cas comme ça. Après, ils vont te taper, ils vont te lapider, ils vont t'enfermer, ils vont te blesser, tellement de trucs. C'est vraiment risqué. De vivre là-bas étant gay, c'est trop risqué.
Et pourquoi? Pourquoi au Cameroun, ça se passe comme ça?
Tout simplement parce qu'ils disent que c'est le démon incarné. Que ça n'existe pas chez eux, au Cameroun, ça n'existe pas, l'homosexualité. Ça sort de l'Occident, c'est les trucs des Blancs, faut pas que les Blancs ramènent ça au Cameroun. Vivre là-bas, être gay, c'est vraiment... risquer ta vie. Du jour au lendemain, tu ne peux plus exister parce que c'est facile d'être empoisonné. Parce que les familles eux-mêmes empoisonnent leurs propres fils parce qu'ils sont gays, parce qu'ils ne veulent pas vivre cette honte de dire dans la rue ou bien dans le quartier que son fils est gay. Il faut t'éliminer, il faut t'enlever. C'est comme si on a un mauvais herbe qui est dans une forêt ou dans une plantation. On t'arrache et c'est bon. Et bon, dormir tranquille et tout.
Et vous avez été victime de discrimination ou de menaces?
Oui, plusieurs fois, j'ai même été agressé, j'ai été tapé. J'étais dans un bar gay et des gens venaient faire le guet-apens pour nous attendre à la sortie du bar. Je rentrais, ils m'ont arrêté, ils m'ont tapé, ils ont tout pris tout ce que j'avais sur moi, ils m'ont poignardé, là, à l'épaule, côté gauche. Ils m'ont laissé là, pour mort. Donc c'est une femme qui passait, qui m'avait secouru et m'a amené au dispensaire qui était pas loin. Et la deuxième fois, c'était des policiers qui m'avaient interpellé. Pour rien, Après, ils m'ont demandé t'es gay, j'ai dit non et tout. Après, un policier m'avait giflé. Il dit ouais, c'est l'abomination et tout. J'ai dit bah, je suis pas gay. Il dit que non, parce que t'es habillé comme ça. Il dit non, c'est pas parce que je porte un pantalon qui me moule et tout que je suis gay. Après, ça n'a pas été facile parce qu'ils n'arrêtaient pas de me gifler sur la tête. Ils m'ont demandé de rentrer, me changer. Ils m'ont dit que non, ils doivent quitter le quartier, qu'on a des enfants en bas âge ici. Ils vont les détruire, les transformer en gays et tout. Voilà, comme si c'était un esprit, être gay là-bas, c'est vraiment, c'est terrible.
Et vis-à-vis de votre famille, comment ça s'est passé?
Très, 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 très mal passé, parce que ma mère n'a pas digéré. Je supportais plus vivre dans le mensonge. Et du coup, tellement elle était mal, elle pleurait tout le temps. Même quand elle partait au champ, elle disait à toutes les femmes qu'elle croisait dans la rue, on baise mon fils pas le nus et tout. Parce qu'elle n'arrivait pas à comprendre le truc. C'était devenu un sujet de moquerie. Quand j'arrivais au village, c'était vraiment la moquerie. Tout le monde me regardait de travers. Les gens, les femmes ne voulaient plus me saluer. J'étais le diable incarné. Tout le monde me fuyait. C'était difficile pour moi de traverser ça.
Et finalement, vous avez fini par vous exiler?
Oui. Et finalement, j'avais une conversation avec mon copain. J'ai dit, écoute, je peux plus vivre comme ça parce que ça devient difficile pour moi. Je peux plus. J'ai envie d'être libre, j'ai envie d'être heureux, d'être gay et vivre ma vie tranquille. J'ai envie d'avoir une vie normale comme un hétéro peut se lever le matin, dire je suis hétéro. J'ai envie de me lever le matin pour dire je suis gay. Comme ça que je quitte le Cameroun à cause de ça. Parce que je pouvais pas vivre, sinon je serais mort. Il n'y a pas vraiment les droits de l'homme au Cameroun, il n'y en a pas, ça n'existe pas.
Et aujourd'hui, vous avez réussi à refaire votre vie en France?
Oui, doucement, parce que ça fait que 2 ans que je suis en France. Donc, j'ai déployé mes ailes déjà, je suis sorti de ma coquille. Je me sens bien. Et les gens me regardent dans la rue, c'est pas pour se moquer de moi, c'est pour peut-être m'apprécier. C'est pas pour dire, ah, PD va te changer. Non, je suis libre. Comme l'air, je suis bien et je suis heureux, voilà, c'est le mot.
Antoine Idier, vous connaissez un petit peu le cas du Cameroun, on en discutait oui. Pendant le témoignage, la diffusion de ce témoignage particulièrement difficile.
Oui, j'ai aussi passé du temps pour des projets artistiques et j'avais pu rencontrer quelques militants sur place qui m'avaient parlé de leurs difficultés de à la fois il y a quelques poches de résistance mais qui sont très faibles et vraiment une homophobie quotidienne extrêmement violente qui conduit au meurtre et à l'agression.
3 cas de meurtre l'année dernière. Voilà, alors c'est très recensé par les associations, notamment l'association Humanity First Cameroun et Alternative Cameroun, 60 cas d'arrestation et détention arbitraire. 1134 cas de violence et violation des droits des minorités sexuelles recensés au total. Et il y a ce décompte qui est minutieusement tenu.
Avec en plus des peines de prison, et la prison est effroyable pour les personnes arrêtées ou même soupçonnées d'homosexualité avec des viols, des agressions physiques. Même les personnes malades du sida n'ont pas accès à leur traitement. D'ailleurs, Alternative Cameroun, j'avais rencontré l'association et notamment son directeur Franz qui avait beaucoup parlé de la situation. Et je me rappelle aussi d'avoir rencontré un jeune garçon qui au départ avait été est extrêmement viril, extrêmement surmasculin, de surjouer une masculinité. Puis à force de discuter avec lui, c'était avéré qu'il était homosexuel et qu'il avait fini par me le dire, tout en me disant qu'il avait personne à qui le dire et que s'il le disait à son meilleur ami, lui avait dit comme ça un jour, si jamais j'apprends que t'es homosexuel, je te tue. Voilà. Et en même temps, bon, toujours souligner que des gens se battent sur place et que c'est ça aussi qui est important d'encourager, de soutenir et d'aider si on peut les aider.
Antoine Idier, 2018 pour la France, c'est une année noire pour les personnes LGBT. Rappelons LGBT, lesbiennes, gays, bisexuelles, transsexuelles, selon le rapport de SOS Homophobie. Qu'est-ce qui s'est passé? Augmentation de 66%, 231 agressions physiques recensées. On pense aussi au meurtre relativement récent de Vanessa Campos, cette prostituée transgenre qui était tuée par balle au Bois de Boulogne au motif de son son identité sexuelle, de son orientation sexuelle. Qu'est-ce qui se passe ?
Pour moi, c'est une question très compliquée de comprendre ce qui se passe, donc j'ai plus quelques pistes qui forment une réponse. D'une part, rappeler qu'au fond, l'histoire de l'homosexualité, comme l'histoire en général, ne passe pas nécessairement du pire vers le meilleur, des ténèbres vers la lumière, et que par le passé, il y a eu des moments d'extraordinaire liberté, par exemple les années 20 en France, 1920 en France et en Europe, où l'homosexualité est visible et tolérée, et puis les années 30, les années 40, avec un moment de régression très forte. Donc toujours garder ça en tête. De même, l'homophobie n'avait jamais disparu, même si on voulait bien le croire ou on essayait de le penser, et toute personne gay, lesbienne, bi-trans connaît les difficultés dans son quotidien de se dire homosexuel, d'embrasser son compagnon ou sa compagne dans la rue, simplement de lui tenir la main. Il est vrai qu'on assiste à un retour particulièrement violent ces dernières années. Alors, est-ce que c'est parce que cette violence est mieux documentée et mieux connue qu'elle est beaucoup plus importante? C'est à la fois une explication, mais effectivement, je crois aussi qu'il y a une forme de décomplexion de la violence, qui concerne pas seulement la sexualité ou l'homosexualité, qui concerne aussi le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie, et qu'au fond, les débats de ces dernières années ont été très, très compliqués, les débats sociaux, les débats politiques, les débats juridiques. On se souvient du mariage pour tous, et ce déferlement de haine avec des dizaines de milliers de personnes prêtes à descendre dans la rue pour dire que non, c'était pas possible. Et même il y a quelques mois, quand par exemple le président Macron dit que accorder la PMA, la procréation médicalement assistée, à des couples de femmes, ce serait peut-être une brutalité pour la société. Non, c'est pas une brutalité, c'est une brutalité pour les couples lesbiennes qui ne peuvent pas avoir la PMA. Mais au moment où le président Macron dit ça, c'est au final concéder quelque chose aux homophobes. Concéder l'idée que donner des droits, c'est brutal.
Et ménager leur susceptibilité, voilà. En tout cas.
Et c'est ce qui est passé avec la Manif pour tous en 2012-2013. Ce qui conduit aussi à donner une forme de légitimité au discours. Et on sait que les discours produisent des actes légitimes des passages à l'acte. Donc c'est un peu tout ça, pour moi, qui dessine la situation actuelle, qui est très inquiétante.
Denis Parot, est-ce que pour vous qui avez travaillé sur le coming out, est-ce que cette homophobie montante, Antoine Idier l'expliquait bien avec ce mouvement de va-et-vient quand on regarde l'histoire, mais est-ce que ça peut être lié aussi à la libération de la parole, à l'augmentation des revendications pour des droits égaux?
Oui, c'est aussi une question que je me pose, j'ai pas du tout la réponse. Ça, en effet, ça peut venir, vu que la libération de la parole est plus présente aujourd'hui, il y a aussi la libération plus présente des paroles homophobes. C'est-à-dire on est passé vraiment de l'invisibilité à la visibilité, et cette visibilité amène à plus peut-être de discrimination, ou en tout cas plus de dépôts de plaintes aussi. J'ai du mal à savoir s'il y a plus de violence ou s'il y a plus de dépôts de plaintes, je ne sais pas à vrai dire.
Comment vous expliquez-vous, Antoine Idier, qui avait publié ces archives des mouvements LGBT de 1890 à nos jours, vous signaliez, vous parliez des années 20, qu'à certaines périodes de l'histoire, l'homosexualité n'est pas, alors non pas légale, mais en tout cas, elle n'est pas perçue comme un danger, comme un problème dans la société.
Par exemple, c'est intéressant justement la question des années 30 et la question de la répression de l'homosexualité en France, qui apparaît dans le code pénal seulement en 1942 et qui perdure jusqu'en 1982, à la suite de l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République.
Ça veut dire qu'avant, il y avait quoi en fait, en termes de
droits? Il n'y avait pas d'absence d'incrimination de l'homosexualité, mais pas d'incrimination en tant que telle. Il y avait tout l'arsenal juridique, l'outrage public à la pudeur, par exemple, pouvait être utilisé pour réprimer des comportements.
Mais qui concernait tout le monde. Enfin,
qui concernait tout le monde.
Les hétérosexuels.
Et par exemple, dans les années 40, c'est à l'inverse l'idée qu'il y a une forme de contagion homosexuelle dont il est nécessaire de protéger les enfants, dont il est nécessaire de protéger les jeunes adultes. Donc s'impose un peu cette préoccupation dans l'espace public, dans l'espace politique. À l'inverse, les années 20, les années 30, dans la presse populaire, dans la littérature, plutôt dans les grandes villes, hein, parce que c'est avant tout Paris, Berlin ou Londres, il y a une présence de l'homosexualité, du lesbianisme aussi extrêmement fort, par des bars, par des boîtes, par des grands bals, par des romans. Et c'est vrai que c'est toujours une forme d'énigme historique, comment il y a des mouvements de recul, et comment même on oublie parfois la grande liberté, la grande audace qui ont existé par le passé.
Quelle a été l'influence des États-Unis États-Unis, dans la libéralisation de la parole, du militantisme.
On célèbre cette année, on est en 2019, les 50 ans des émeutes de Stonewall en 1969 à New York, quand des Stonewall Inn et un bar du village, et il y a une descente de police, New York, et les clients du bar se rebellent contre la police, il y a une émeute qui dure plusieurs jours. C'est assez fascinant de voir qu'on le célèbre autant en France, puisque sur le coup, dans les années 1970, pour les mouvements homosexuels radicaux qui apparaissent dans le sillage de mai 68 et du féminisme, Stonewall n'est pas du tout ou marginalement une référence. Et c'est finalement après coup qu'a été construite cette référence mythique et mythologique aux États-Unis, qui n'était pas nécessairement là au début. Ce qui fait que chacun aujourd'hui, enfin beaucoup en tout cas de gays, de lesbiennes, de trans, peuvent se référer à ce moment-là comme un moment fondateur, et qui est même un moment producteur d'une forme de puissance politique. L'histoire de Stonewall est très belle, cette idée de qu'on se rebelle contre la police et qu'on résiste, et ça a nourri 50 ans de lutte.
Et sur la libéralisation de la parole, la libération de la parole, Denis Parot, vous qui avez travaillé sur la révélation de l'homosexualité, il y a beaucoup de jeunes Américains dans votre documentaire. Vous allez nous expliquer dans quelques instants comment vous les avez choisis, mais est-ce que vous avez des éléments d'explication là-dessus?
Le fait que ce soit venu plutôt des États-Unis, ouais. En tout cas, je sais que ça a commencé dans les années 2010, tous ces témoignages vidéo de jeunes gays, lesbiennes, bi ou trans, voilà, qui annoncent à leur famille qui ils sont, en se filmant et en postant ensuite ces vidéos. Ça, c'est le documentaire que j'ai réalisé. J'ai visionné plus de 1200 vidéos, j'en ai sélectionné 19. Et ce qui m'a marqué au niveau international, c'est justement qu'il y a des zones géographiques, c'est beaucoup plus représenté dans les pays anglophones. Il y en a pas mal en Europe, il y en a un petit peu en Asie, mais voilà, il y a des zones géographiques comme l'Afrique ou le Moyen-Orient qui ne sont pas du tout représentées dans le film. Et ça, ce n'est pas du tout un choix de ma part. Et ça, quand on fait coïncider le manque de vidéos venant de ces pays et les lois les pénalisant, les criminalisant, ça correspond donc.
Alors vous allez nous expliquer comment vous avez travaillé, Denis Parot, pour ce documentaire qui s'appelle Coming Out. Tout de suite, on écoute un extrait.
Mom, what? I kissed a guy.
Yeah.
And I think I'm gay.
Nous ne faisons pas notre coming out pour que les hétéros le sachent. Nous ne faisons pas notre coming out pour que les croyants le sachent. Nous ne faisons pas notre coming out pour que ceux qui nous haïssent le sachent. Nous crions, nous faisons le plus de bruit possible pour que les personnes comme nous, qui ont peur et qui ne peuvent pas être elles-mêmes, pour qu'elles sachent qu'elles ne sont pas une erreur, qu'elles ne sont pas seules.
Vous savez quoi? Ça devrait être ni dur ni compliqué. On ne devrait pas rougir, ni avoir peur, ni se sentir menacé, ni culpabilisé de le faire. J'ai vu une super vidéo qui disait, on demandait aux gens s'ils étaient, enfin, s'ils croyaient qu'on naissait gay ou si on choisissait de l'être. Beaucoup disaient, les gays et les lesbiennes choisissent cette vie. Et alors on leur demandait, quand avez-vous choisi d'être hétéro?
Les jeunes qui figurent dans votre documentaire, Denis Parot, ils ont entre 12 et 25 ans.
Oui.
Il y en a beaucoup, le premier qu'on entend, il renifle. Il y en a beaucoup qui pleurent dans ce documentaire, y compris quand la révélation de l'homosexualité avec leur mère se passe bien.
Oui, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est vraiment des semaines, des mois ou des années durant lesquelles ces jeunes pensent à ça. Ça sort pas de nulle part. Il y a une longue réflexion, une longue maturation de cette annonce, et c'est pour ça que souvent c'est très très émouvant pour eux, quoi. Et vraiment, il y a ce qui ressort de ces vidéos. Moi, ce que j'ai senti, c'est que ils ont vraiment la peur de perdre l'amour de leurs parents. C'est vraiment l'enjeu principal, et ça, c'est un vrai enjeu dans une famille.
C'est pour ça que je disais, c'est presque un film sur l'amour filial, bien au-delà de l'homosexualité, qui est certes le sujet du film, mais ça pourrait être un autre prétexte aussi pour parler de l'amour filial, de la peur de perdre l'amour de sa mère. Alors c'est souvent des annonces, donc ce sont des vidéos qui ont été postées sur le net, hein, que vous avez visionnées, donc plus de 1300 vidéos pour en retenir 19. C'est tout ce travail de sélection qui a été le travail du documentariste en l'occurrence, là, pour vous.
Oui, j'ai vraiment considéré ça comme un montage d'archives, mais d'archives d'images ultra contemporaines. Et c'était important pour moi. Ça parlait de notre société vraiment actuelle, quoi, en tout cas occidentale. C'était une façon de mettre en avant tous ces jeunes qui ont un courage dingue, je trouve, et qui portent cette parole très, très fort.
Et qui ont décidé, donc, qui ont prémédité de se filmer au moment où ils allaient faire cette annonce. C'est presque toujours à leur mère.
C'est ce qui ressort.
Y compris quand ce sont des filles, hein, garçons, filles, peu importe. Ils
complètement,
parlent à leur
mère. C'est vrai, ça m'a interrogé beaucoup aussi. Je pense qu'il y a encore un cliché du père qui serait plus difficile ça serait plus difficile pour lui à admettre, hein, alors que je pense que ce n'est pas forcément le cas. Ce qu'on voit dans le film, il y a une mère qui réagit très mal et un père qui réagit très bien. Mais il y a encore ce cliché du père terrible.
Il y a une scène particulièrement violente qui se passe dans le sud des États-Unis.
Avec Daniel, tout à fait, oui. Qui, en fin de compte, avait annoncé 2 jours avant à ses parents qu'il était gay. Et ses parents l'ont convoqué. C'est une convocation familiale. Et donc, s'il se passe quelque chose de vraiment étrange, et donc il a lancé son smartphone pour filmer cette scène qu'on voit dans le film, qui est absolument terrible.
Vous pouvez la raconter, cette scène?
Elle est difficilement soutenable. C'est vrai que c'est une scène de violence, de cris,
s'est terminée. Où une mère annonce à son fils qu'il est dehors.
Oui, Daniel s'est fait mettre à la porte par ses parents, et c'est pas une histoire isolée, ça arrive énormément, même en France. Il y a une association qui s'appelle Le Refuge, qui accueille les jeunes qui sont mis à la porte de leur domicile familial.
Comment est accueilli le film en France?
Le film est très bien accueilli en France. Je suis très heureux. On fait beaucoup de projections. Il y a des réactions assez drôles. Il y a un monsieur, il y a 2 semaines, un vieux monsieur qui est venu me voir après une projection, qui m'a dit « Bon, moi, je suis normal, mais votre film, je l'ai bien aimé. Voilà. » Et la semaine dernière aussi, il y a un collégien qui m'a demandé si j'étais hétérophobe. Voilà, c'est ce genre de réaction qu'on a assez, assez étonnante.
Dans la plupart des vidéos, ça se passe bien. Est-ce que c'était un choix de votre part de sélectionner une version plutôt heureuse, en tout cas plutôt apaisée du coming out?
Moi, je conseillerais aux parents, à tous les parents, d'aller voir ce film, parce que vraiment, et ça leur permettrait de se situer comment eux réagiraient, quels parents ils veulent être avec leurs enfants. Et c'est vrai que moi, je voulais montrer l'exemple. Je voulais montrer aussi qu'il y a des parents qui réagissent bien, que c'est possible d'avoir des familles qui tiennent, avec des parents aimants. C'est aussi une réalité, c'est possible, quoi.
Ce qui n'empêche pas la souffrance et l'angoisse des jeunes, même quand ça se passe bien.
Il y a toujours ce que je voulais montrer dans le film, c'est que ces jeunes viennent du monde entier, qu'ils ont un parcours très différent tous, ils ont une histoire très différente, mais sur ce sujet-là, ils vivent la même chose, quoi. Pour moi, il y a un fil invisible entre tous ces témoignages qui est très fort. Il y a une histoire commune sur cette révélation. Ouais.
Et la question qui est presque toujours sur les lèvres de l'échange ensuite, c'est: est-ce que tu vas m'aimer? Est-ce que tu vas continuer à m'aimer quand même en tant que fils ou fille?
Exactement, c'est vraiment... Pour moi, je sais que le film va être classé comme un film militant LGBT, mais je trouve qu'il rejoint des thématiques beaucoup plus larges sur l'amour familial, sur le lien parent-enfant, sur les tabous familiaux. Et ça, ça parle à tout le monde, quoi.
Ouais. Antoine Didier, c'est votre avis?
Non, c'est intéressant ce que vous disiez, que vous trouvez que les coming out se passaient bien. Et moi, j'ai vu votre film, Denis, que j'ai beaucoup aimé.
Ouais.
Alors, et que j'ai trouvé très beau, très fort. Et en même temps, moi, je l'ai trouvé très violent, parce que même quand ça se passe bien, je trouve que ça se passe pas bien, dans la mesure où il y a toujours une forme d'inégalité dans le rapport, c'est-à-dire que celui ou celle qui dit reste toujours dépendant de la réaction en face, et que même quand la personne réagit bien, la réaction est un peu à côté de la plaque, ou jamais totalement ce qu'il entend, que ce soit le premier, en fait, il l'annonce, il crée ce théâtre avec la caméra, et puis au fond, sa mère est déjà au courant, et elle en a, c'est pas qu'elle en a rien à faire, mais au fond, bon, bah, d'accord. À l'inverse,
cette indifférence, d'une certaine manière, c'est une forme de violence aussi?
Dans le sens où c'est le propre du coming out, où en fait, la personne qui fait son coming out a toujours à se justifier et a toujours à le dire. Ce qu'un hétérosexuel, évidemment, n'aura jamais à faire, et qu'un homosexuel ou une personne lesbienne, bi, trans, et même si elle l'a dit une fois dans le cadre familial, elle devra le redire à son travail, elle devra dans tous ces instants de la vie, et dans tous ces instants de la vie, il y aura toujours une personne qui sera là pour valider, en fait, pour qu'elle le valide en bien ou en mal. Il y a même cette réaction très étrange du père, un des coming out du père qui...
C'est le seul père qu'on voit d'ailleurs,
qui réagit bizarrement, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Comme si au fond le problème c'était lui-même, et pas le fait que son enfant a une différence sexuelle qui risque de lui poser des difficultés dans,
Mais il y a aussi une peur des parents de ne pas être à la hauteur.
Oui, c'est vrai que beaucoup de parents peuvent culpabiliser en se disant qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai...
Oui, c'était pas le sens de ma question. Ah, moi, je me disais des parents qui se disent, mais est-ce que je vais pouvoir aider mon enfant?
Ah oui, tout à fait. La meilleure façon...
Avoir la bonne réaction, pour qu'il cesse d'être inquiet, par exemple.
Pour moi, la bonne réaction, c'est qu'il n'y ait plus de réaction, en fin de compte, à l'avenir. Toutes ces vidéos, en fin de compte, pour moi, ne devraient même pas exister, quoi. J'espère que voilà, dans 10-20 ans, on n'ait plus besoin de passer par là et qu'on présente juste son copain ou sa copine à ses parents et que ça se passe tout à fait naturellement. C'est une étape transitoire, mais qui ne devrait pas être nécessaire.
Qu'il n'y ait plus de coming out, en fait.
Exactement, je le souhaite.
C'est ça.
Tout à fait.
Mais je connaissais pas du tout toute l'étendue de ces vidéos et je les ai découvertes par votre film. Mon copain qui est un tout petit peu plus jeune que moi m'a dit que c'était que pour faire son propre coming out, regarder ces vidéos sur YouTube avait été quelque chose à un moment très important pour lui comme une manière de se donner du courage aussi de regarder toutes les expériences.
Exactement, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est pas du tout une provocation de mettre toutes ces vidéos en ligne, c'est vraiment juste une entraide et un soutien pour parler de soi et pour aider les autres à mieux vivre, juste à s'accepter tel qu'ils sont. Donc c'est vraiment pas c'est le sens, c'est vraiment une entraide mondiale de poster ces vidéos sur internet.
Il y a un jeune qui dit, je sais plus dans quel pays il est, l'homosexualité, dit-il, ça fait partie de mon identité mais ça ne me définit pas. C'est ce qu'il faudrait toujours rappeler.
Bien sûr, c'est vraiment une partie exactement, c'est être comme être blond, avoir un gros nez ou c'est une partie de la personne mais ça la définit pas entièrement. C'est vraiment, pour moi c'est important de montrer aussi, c'est pour ça que dans le film il y a d'autres vidéos qui parlent pas du coming out. Dans le film il y a un jeune qui fait de la corde à sauter, il y a un jeune qui fait du violon. Ces jeunes là ils ont une vie tout à fait normale, ils veulent juste qu'on les accepte. C'est une particularité en plus mais ça ne les définit en rien.
Alors vous le disiez Antoine Idier, c'est vrai que même dans les situations où ça a l'air apaisé, où ça se passe bien, vous ressentez quand même une forme de malaise en tout cas ou de violence. Il y a un cas de mère qui est très bienveillante, mais qui dit « Écoute, si c'est ton choix, bien sûr, je l'accepte tout à fait. » Et ça, ce mot-là, il est intolérable.
La question du choix revient, c'est vraiment un cliché, c'est vraiment quelque chose qui revient très souvent. Il faut juste rappeler que ça n'est pas un choix et qu'aucun hétéro n'a choisi d'être hétéro, donc aucun gay, bi, lesbienne ou trans n'a choisi d'être LGBT, quoi.
Beaucoup de mamans disent « Mais je l'ai toujours su. » Est-ce qu'un père pourrait dire ça?
Je pense, oui. Je pense.
En tout cas, c'est vrai que la présence des mères et des pères dans le film est intéressante, ce qui dit aussi quelque chose de la construction peut-être de la masculinité et de la féminité, notamment dans l'éducation et notamment dans le cercle familial, et que il y a un peu deux pôles et que c'est peut-être avant tout à la mère qu'on va parler de ces choses-là et moins au père. Et le film pose beaucoup cette question-là en creux finalement aussi.
J'ai fait juste une projection avec des scolaires la semaine dernière. Il y a une jeune fille qui devait avoir 16 ans qui a fait son coming out devant toute sa classe. Donc tout le monde s'est retourné pour savoir qui parlait. Et elle a dit justement qu'elle l'avait d'abord annoncé à son père parce qu'elle trouvait ça plus simple avec son père qu'avec sa mère. Donc il y a aussi des contre-exemples.
Ouais. À l'heure actuelle, on parlait des violences et des agressions physiques à l'égard des jeunes homosexuels en France. Ça se passe mal, en particulier dans les quartiers sensibles, dans les établissements scolaires en quartiers sensibles. Antoine Idier, est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose à démêler sur cette question-là ?
Je dirais qu'avant même au moment même où on pose la question, faut faire attention à la question qu'on pose, parce que, par exemple, je parlais tout à l'heure de la manif pour tous au moment de 2012-2013, et cette dizaine de milliers de personnes ne venaient pas des quartiers sensibles, mais venaient avant tout des quartiers, notamment de la bourgeoisie parisienne ou de villes de province très catholiques et très bourgeoises, et que donc évidemment, il ne faut faire attention à ne pas recoder l'homophobie dans des termes seulement raciaux, seulement ethniques ou seulement culturel, c'est plutôt que la société tout entière est traversée par de l'homophobie qui prend des formes différentes selon le milieu social dans lequel elle se
manifeste. Mais le point commun,
ce
sont l'inquiétude et les aspirations conservatrices, finalement, que l'on soit issu de l'immigration ou de la bourgeoisie.
Oui, et même le fait de ressentir comme nécessité de défendre un certain modèle de vie, une certaine conception de la sexualité, une certaine conception du genre. Ce qui n'empêche évidemment, je ne nie surtout pas que dans des quartiers populaires, il y a un certain nombre de difficultés. Il y a des formes de violence aussi spécifiques à certains quartiers populaires et qu'il faut bien évidemment tout faire pour qu'elles cessent.
Est-ce qu'il faut davantage de répression à l'encontre de l'homophobie, selon vous, de Denis Parot, Antoine Idier?
J'ai l'impression que les lois existent, maintenant il faut vraiment les appliquer. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Après, tout dépend de ce qu'on appelle l'homophobie aussi, parce que la grande difficulté, c'est que l'homophobie peut être insidieuse ou prendre d'autres formes. Évidemment, dire « sale gouine » et « sale pédé », c'est de l'homophobie, mais dire « un couple lesbien ne doit pas avoir d'enfant parce que il manque un référent masculin », est-ce que c'est de l'homophobie ou pas ? Pour moi, bien évidemment que oui, sauf que pénalement, c'est pas le cas. Il faut pas négliger non plus les transformations juridiques, le parcours des personnes trans en France en 2019 est encore un calvaire pour se voir reconnaître le droit à changer d'état civil, pour avoir des papiers correspondant au genre qu'on s'est choisi. Et c'est aussi par ces transformations-là qu'on oblige une société à se transformer.
Merci en tout cas à tous les deux. Denis Parot, il faut aller voir le film en salle, donc alors en France, mais également il va sortir
en Italie, en Angleterre et en Pologne pour le moment.
Coming Out, merci à vous Antoine Hidier, archives des mouvements LGBT, une histoire de lutte de 1890 à nos jours.
Merci beaucoup.
Et c'est paru chez Textuel, il y a pas mal de documents très intéressants. On termine cette discussion avec la chanson d'Eddie de Préto et puis juste après ce sera la chronique de Marie-Rose Moreau.
Tu seras viril mon kid, je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril mon kid, je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs ni des gestes qui veulent dire et je sais si ce sont tout de même les pires à venir te castrer pour quelques vocalistes. Tu seras viril mon kid, loin de toi c'est finesse tactique de ces femmes d'origine qui féminisent groguise sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril mon kid, tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon et comme tous les garçons tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
Enfants d'ici et d'ailleurs. C'est la chronique de Marie-Rose Moreau. Bonjour Marie-Rose.
Bonjour Emmanuel.
Pédopsychiatre, directrice de la revue transculturelle L'Autre. C'est la dernière chronique de la série consacrée au sommeil pour cette chronique parents-enfants d'ici et d'ailleurs. Le dernier épisode, pourquoi parfois les enfants n'ont pas sommeil ?
Malheureusement, j'allais dire, il y a plein de raisons pour lesquelles le sommeil, c'est tellement compliqué, on l'a vu, et puis peut traverser de peur, d'inquiétude. Bon, à partir de là, on peut se dire que bon, les premières raisons pour lesquelles l'enfant ne veut pas s'endormir, c'est qu'il ne veut pas quitter la vie du jour, la vie de ses parents, de ses grands frères et sœurs. Il veut rester là, il veut continuer à participer à la vie des adultes. Alors, aller dormir suppose de se séparer de tout ça. Et souvent, déjà, les enfants n'aiment pas. Et en plus, il peut aussi être en, avoir peur quoi, de se séparer, avoir peur qu'il se passe quelque chose. Donc dans ce cas-là, il va tout faire pour résister et pour rester avec les adultes. L'autre série de raisons, c'est qu'il a peur de ce qui va se passer dans son sommeil cette fois. Il a peur par exemple des choses qui reviennent, des souvenirs, des événements violents qui se répètent dans son sommeil. Et pour cela, il a trouvé qu'une solution, éviter de s'endormir pour ne pas revoir ces choses qui lui font peur et donc tenter d'éviter ce sommeil effrayant.
Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là, notamment quand des enfants ont vécu des événements traumatiques, quand vraiment on voit que l'enfant a cette peur de s'endormir?
Oui, alors sur ces deux thèmes, la vie du jour et la vie de la nuit, hein, il faut que les deux soient tranquilles pour que l'enfant ait envie de s'endormir. Donc il faut essayer de comprendre, hein, parce que qu'un enfant résiste un peu, c'est normal, mais que vraiment il ne veut pas y aller, il peut peut-être se passer des choses graves, aussi bien dans le jour que la nuit. Donc dans ce cas-là, il faut commencer par aider l'enfant à se sentir plus en sécurité, par ritualiser davantage le passage entre le jour et la nuit, ce qui va l'aider à anticiper. Il faut le consoler de ses peurs, hein, pour qu'il puisse aller s'endormir. Prendre très au sérieux ce qu'il dit. Hein, s'il dit qu'il a peur que des vaches... Je me souviens de cet enfant qui avait peur que les vaches aillent dans sa chambre. C'est très sérieux, quoi. Ça veut dire que dans cette chambre-là, il ne se sent pas en sécurité. Et il faut donner des moyens à l'enfant d'agir sur ses peurs, soit par la pensée. Hein, si tu penses à telle chose qui te fait plaisir, alors les choses négatives ne viendront pas. Ou alors, on met une petite lumière, on met un mot sous l'oreiller pour dire que cet enfant, il n'est pas tout seul, il a des parents. Je me souviens, ça c'est un enfant qui me l'a appris, il m'a dit mais si tu m'écris que je suis pas tout seul, je suis pas orphelin et que mes parents sont là, ça empêchera l'ogre de venir me manger. Il faut aussi lui permettre de se sentir plus fort. Par exemple, on peut lui raconter des histoires où il y a des garçons et des filles qui sont forts et qui trouvent de la force. Ou alors on peut, pour les plus grands, à partir de 5-6 ans, leur apprendre aussi des petits mouvements de relaxation ou de méditation, c'est-à-dire qu'ils puissent eux-mêmes s'apaiser, se tranquilliser pour passer dans le monde de la nuit. Il faut qu'ils arrivent à identifier leurs peurs, il faut les aider pour ça, et à augmenter leur capacité à les combattre. Dans la grande majorité des cas, ça suffit avec tous ces petits moyens, mais la séparation, comme toute séparation, elle peut faire mal, et si on n'arrive pas à l'apaiser comme ça, ben à ce moment-là, si le savoir des mères et des parents ne suffit pas, mais il faut le prendre très au sérieux, à ce moment-là, il faut aller consulter quelqu'un.
Merci Marie-Rose Moreau. On peut aussi vous lire « Nos enfants demain », édité chez Odile Jacob. Merci pour cette série consacrée au sommeil des enfants. À retrouver bien sûr en podcast la chronique « Parents-enfants d'ici et d'ailleurs » sur les plateformes de téléchargement et bien sûr sur RFI.fr. Merci Marie-Rose.
Merci.
Alors, on dit quoi ?
On dit quoi ? C'est avec Diara Ndiaye qu'on accueille chaque semaine. Bonjour Diara.
Bonjour Emmanuel.
Vous proposez, Diara Ndiaye, à nos auditeurs une émission spéciale Jeunes entrepreneurs agricoles dans Alors on dit quoi ?
Exactement Emmanuel, on va aller pour cela au Niger pour comprendre qu'est-ce qui les motive à tenter le retour à la terre. Et on va aussi voir quelles sont les difficultés rencontrées. Et on va surtout montrer comment d'autres jeunes comme Ousmane incitent leur père à comprendre et aimer l'agriculture.
Ce que nous essayons de faire, c'est d'abord cibler et des jeunes ruraux, mais aussi des jeunes urbains. Énormément de jeunes diplômés qui n'arrivent pas à se retrouver. Et il y a des jeunes qui pensent que parce que j'ai fait un diplôme en géographie, je ne peux pas diriger une entreprise d'agriculture. Une entreprise, c'est une entreprise. L'agriculture, ce n'est qu'une activité parmi tant d'autres qu'une entreprise peut faire. Donc, ces genres de jeunes sont les jeunes que nous voulons aider à comprendre d'abord ce qu'est l'agriculture.
Diplômé et agriculteur, donc c'est possible. On retrouve tout ça demain à 11h10, temps universel, Diara.
Oui, Emmanuel, exactement.
À demain, Diara. Alors on dit quoi ? Et quant à nous, on se retrouve lundi pour 7 milliards de voisins. On parlera du télétravail, travailler à distance. C'est de plus en plus répandu. D'ailleurs, ça peut être intégré dans les textes de loi, mais ça pose de nombreuses questions pour les employés comme pour les entreprises. Comment trouver le bon équilibre, par exemple si on travaille à la maison, entre vie privée et puis vie professionnelle, comment s'organiser. Si vous travaillez souvent à distance, les voisins et les voisines, racontez-nous vos messages et vos appels sur les réseaux sociaux. Il y a un seul numéro de téléphone pour le téléphone et pour WhatsApp, 33 1 84 22 71 71. Merci à toute l'équipe, Sigrid Azerwal, Chantal, Delphine de Dianous, Romain Dubrac. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio à la rubrique magazine et nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram et voir aussi des extraits en vidéo de nos émissions. Merci à Sandrine Straram qui fait toujours une judicieuse sélection. Voilà, merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve lundi, même heure, même endroit, sur RFI, en direct bien sûr.